18h15 minutes. C'est vendredi prochain. J'ai dit jeudi, mais non, c'est vendredi prochain qu'on ouvrira la 10e saison du programme d'hockey féminin des Carabins de l'Université de Montréal. Elle a été des premières secondes de ce programme d'hockey. Daniel Sauvageau est avec nous. Salut, Daniel.
Salut.
Comment ça va?
Ben, ça va très bien. Merci beaucoup.
10 ans déjà de
déjà,
ce programme
d'hockey.
C'est
un peu un bébé puis qu'on l'a pas vu ou à peu près grandir. Est-ce qu'on s'attendait d'être là après 10 ans? On a quand même 7 championnats canadiens, 2 titres nationaux, 2 médailles d'argent et 2 médailles de bronze. Alors, on est très, très fiers. Mais je dis souvent qu'on a appris aussi de l'Université de McGill qui était premier depuis un bout de temps dans la Ligue canadienne. Alors, lorsqu'on se retrouve maintenant dans une division qu'on considère la meilleure au pays, bien, le programme continue de progresser à l'Université de Montréal, mais aussi et surtout le hockey féminin dans sa globalité.
C'est le premier programme francophone. Ça offrait des opportunités pour des filles de chez nous d'être capables d'évoluer dans un contexte où c'est structuré, c'est bien organisé, puis c'est un haut niveau de compétition.
C'est un haut niveau. Lorsqu'on regarde avec nos Québécoises, on a eu beaucoup... un exode vers les États-Unis pendant plusieurs années parce que, justement, un programme dit francophone n'existait pas. Mmh. Alors, ça a été la raison, une des raisons premières de Manon Simard de dire, bien, maintenant, on se doit à l'Université de Montréal de créer un programme de hockey féminin francophone. Et on cherchait aussi une certaine parité à l'époque, de dire, est-ce qu'on peut avoir autant d'athlètes étudiants et d'athlètes étudiantes, donc d'avoir la parité homme-femme au niveau du nombre. Et je pense qu'elle s'est retournée vers le hockey féminin en disant, bien, c'est le hockey féminin qui répond aux deux critères recherchés. Et je pense que 10 ans après, on a fait notre chemin.
Est-ce que 10 ans après la création de ce programme de hockey du côté de l'Université de Montréal, chez les dames, est-ce qu'on est capable de compétitionner avec les universités américaines? Parce que les meilleurs veulent... On a l'impression qu'on veut toujours aller voir du côté de la NCAA. Là. C'est comme le mot magique, NCAA. Est-ce qu'on est capable de compétitionner?
Définitivement, on a McGill, Concordia ici à Montréal et nous-mêmes qui évoluons contre les équipes du NCAA et ça compétitionne, on gagne la plupart de nos matchs. Alors la compétition, elle est présente. Alors c'est de simplement ce qu'on dit quotidiennement à nos jeunes, venez au moins visiter et ensuite bien, vous pourrez prendre un meilleur choix. Donc de prendre l'ensemble de l'information disponible. Bien souvent, on a entendu des jeunes revenir ici au Québec, au Canada, dire ben finalement dans quoi j'ai étudié, ça ne compte plus ici, je suis obligé de faire une année de plus, je suis obligé de recommencer. Mmh. Ici, une jeune au Québec qui passe 3 ans au cégep et ensuite 5 ans chez nous, c'est 8 ans d'hockey, contrairement à 4 ans au niveau du NCAA. Alors, une joueuse qui veut jouer au hockey longtemps, qui veut se développer puis ensuite peut-être penser même à l'équipe des moins de 22 ans au niveau canadien et l'équipe nationale, bien, je pense que c'est du hockey sérieux qu'on offre et qu'aujourd'hui, on est capable de dire, on n'a plus de raison d'aller aux États-Unis, ni par les programmes de hockey, mais surtout par la qualité des études. Souvent, les jeunes disent « Ouais, mais moi, j'ai un full scholarship. Ils payent toutes nos études. On est capable de faire la même chose ici, au Québec. »
OK, vous offrez la même chose. Parce que c'est toujours la même affaire chez les garçons. Écoute, j'en ai eu des amis qui ont eu ça. Là. Hey, ils me donnent un full scholarship aux États-Unis. T'as comme l'impression qu'on vient de te donner le Pérou et tu veux t'en aller là en courant. Mais on offre ça aussi, ici au Québec.
Oui, avec un projet pilote qui existe maintenant depuis 5 ans, en fait. Lorsque, justement, on offre un full scholarship de 300 000, on revient pas avec de l'argent dans les poches. Ce que ça dit, c'est que on paye les études. Ici, on est capable aussi de payer les frais de scolarité et plus. Alors, lorsqu'on appelle, puis il y en a qui me disent, ouais, mais on va aller jouer vers des États-Unis de Ivy One, donc de premier niveau. Quand on regarde le nombre de Québécoises qui jouent dans ces universités-là, il n'y en a pas tant que ça. Alors, de vraiment prendre la peine de dire McGill, Montréal, qui est maintenant la première université francophone, et McGill et Montréal, qui sont dans les 100 meilleures universités en Amérique du Nord, je pense que ça vaut la peine de regarder le programme d'études et le programme de hockey.
On s'entretient avec Daniel Sauvageau, évidemment, vendredi prochain, 18 octobre. Ce sera le premier match de cette saison 2019-2020 du programme de hockey féminin et des Carabins de l'Université de Montréal. 10 ans déjà. Comment se porte le hockey 10 ans après, Daniel Sauvageau?
Mais ça se porte bien. Isabelle Leclerc, on s'amuse à dire qu'elle a été jusqu'ici la meilleure entraîneur du programme, mais c'est la seule. Elle a débuté chez nous. Elle a grandi chez nous. Et un gros bravo, justement, elle et son coaching staff et l'ensemble du personnel qui, de près ou de loin, nous donne du temps. Parce que, je le dis, ces gens-là nous donnent du temps. C'est des honoraires qui sont vraiment symboliques. Mmh. mais c'est des gens qui sont extraordinaires. Alors oui, le hockey québécois, je l'ai mentionné tantôt, au niveau universitaire, nous avons la meilleure division au Canada. On en est bien fiers. L'Université Bishop qui va faire son entrée aussi l'année prochaine. Alors, la division va être la conférence va être composée de 6 équipes avec Bishop et Carleton et Ottawa. Alors, on trouve ça extraordinaire parce que maintenant, on a des jeunes même qui viennent, surtout à McGill, qui viennent de l'ouest du Canada, de l'Ontario, qui viennent chez nous, qui vont à Concordia. Alors, je pense qu'on est bien fiers de ce qu'on a bâti avec les Carabins. On avait dit ça, on aimerait prendre 5 ans pour compétitionner dans la Ligue et ensuite peut-être même être, et 4 ans après, on était champion canadien. Alors, de construire cette division-là et continuer de bâtir avec, en leadership, Isabelle Leclerc comme entraîneur-chef, on en est bien fiers.
Daniel Sauvageau, tu me racontais, là, présentement, tu es DG des Carabins du programme, donc tu occupes de la structure, d'amener les joueuses, puis de chapeauter. Tu chapeautes aussi plein de personnes à côté. Tu as été avec les Canadiennes de Montréal l'an passé. Tu développes encore plein de projets. Comment tu arrives à bien gérer toutes ces situations-là qui sont évidemment du hockey, mais dans des situations complètement différentes?
Mais je pense que c'est quand même un petit groupe à Montréal lorsqu'on regarde les femmes et les hommes qui sont impliqués au niveau du hockey féminin et qui veulent son bien, qui veulent en faire la promotion, qui veulent son développement. C'est quand même un petit groupe et on se doit. Je dis souvent qu'on a le devoir de l'aider et c'est pas ainsi qu'on doit justement abandonner. Mm-hmm. Oui, c'est demandant en même temps parce que c'est du temps. On donne ce temps-là, mais on y croit. Puis lorsqu'on est passionné, ben on se dit un jour, on va peut-être en faire du hockey professionnel. Alors, lorsqu'on parle de développer le présent pour avoir un meilleur futur, je pense que je dois continuer à m'impliquer et en espérant qu'un jour, je vais pouvoir le regarder d'un petit peu plus loin et d'en être encore plus fier.
Est-ce qu'il y en aura du hockey professionnel sous peu? Là? Parce que là, il y a eu démantèlement. On ne savait pas s'il était pour avoir des formations. On a parlé qu'il y a peut-être quelques formations qui iraient jouer avec un circuit américain. On en est où dans ce dossier-là?
Pas du tout. Il n'y a pas les meilleurs 200 joueuses en Amérique du Nord ont pris la décision de former d'abord une association dite de joueuses professionnelles et cognent à toutes sortes de portes pour justement créer des matchs de showcase, d'avoir des matchs dans des petits marchés, dans des gros marchés. Le prochain va avoir lieu le week-end prochain à Chicago pour justement stimuler l'intérêt pour en faire la promotion. Et ce qu'on pense, c'est que à court terme, la Ligue nationale devrait s'impliquer de quelque façon. Quel modèle va être mis en place pour s'assurer que le modèle, pour cette fois-ci, ça va être le bon moment. Il faut penser aussi à, si par exemple Montréal avait son équipe professionnelle, ben il y a 23 femmes de partout en Amérique du Nord qui vont composer cette équipe-là, mais il faut aussi penser à la prochaine génération, donc de farm team, l'équipe école,
ouais.
Comme on dit. Alors, on veut aussi s'assurer que lorsque la joueuse qui termine universitaire, qui a d'abord été à l'université parce qu'il y a très peu d'endroits. Ensuite, qui est allé, qui veut continuer à jouer au hockey, puis il y a encore du potentiel, mais qui a aussi une place à jouer. Alors, on veut vraiment s'assurer que la structure à Montréal soit de la petite fille jusqu'au hockey professionnel, qu'il y ait un endroit pour jouer. Alors, on travaille très fort là-dessus.
Est-ce qu'on a le bassin de joueuses pour avoir une structure comme ça?
Définitivement. Allez dire à Marie-Philippe Paulin et à Mélodie Daou, comme la semaine passée, de pratiquer dans 4 arénas possibles, 4 arénas différentes, que c'est impossible. Alors oui, le bassin est là et c'est la raison pour laquelle on doit travailler sur la rétention.
Juste comprendre, Daniel Sauvageau, pourquoi elle était dans 4 arénas différentes?
C'est qu'il n'y a pas de structure présentement. Alors on tente avec justement différents partenaires d'avoir des endroits pour pratiquer régulièrement pour, un, les maintenir à flot, deux, pour les maintenir au niveau qu'elles doivent être pour ensuite nous représenter au niveau de l'équipe canadienne, et aussi de construire avec justement des partenaires un endroit où il va y avoir plus que 28 joueuses sur Montréal qui vont vouloir continuer à jouer du hockey. Présentement, ce que ça veut dire, c'est qu'une fois que tu as fini de jouer universitaire, c'est terminé. C'est terminé. Alors, est-ce qu'on pourrait dire, c'est de penser, par exemple, du côté masculin, parce que bien souvent, les gens peuvent voir une analogie. Bien, après universitaire ou la Ligue junior majeure du Québec, il y aurait la Ligue nationale, puis il y aurait 6 équipes. Alors, on perdrait beaucoup de jeunes garçons qui disent, ben finalement, ça donne rien de continuer, je peux pas gagner ma vie. Alors, lorsqu'on prend l'ensemble du cheminement, du développement de l'athlète, élite du côté masculin, on est très loin de cette structure-là au niveau féminin. Alors, je pense que des petites filles doivent continuer à rêver de dire « je veux jouer du hockey » et dire peut-être de gagner ma vie, non seulement comme joueuse, mais comme entraîneur, comme administratrice et ou, évidemment, de aussi acquérir de l'expérience du côté masculin et vice-versa. Donc, c'est de développer une structure de hockey où, évidemment, l'intérêt devra aussi être développé.
Là, il y a deux filles qui ont atteint le niveau professionnel. Manon Réaume, elle est Wokenheiser, a joué chez les professionnels en Suède, je pense, je ne veux pas me tromper.
Effectivement, et en Finlande, oui.
Et en Finlande. Donc, on sait que ça va sûrement arriver à un moment donné. Il y a sûrement une joueuse, on l'a vu au dernier match des Étoiles, malheureusement, je ne me rappelle pas de son nom. Elle était rapide, plus rapide que les gars de la Ligue nationale. Dans une ligue, en plus, qui prône la rapidité, je ne sais pas quand, mais ça devrait arriver à un moment donné qu'une fille soit capable de jouer.
Au niveau professionnel, dans la Ligue nationale masculine, avec tout le contact, avec le poids aussi, c'est la rapidité, l'agilité, la flexibilité, l'habileté de lire et réagir, de connaître la structure du hockey, d'être capable de changer d'échec avant trois fois dans le même match, tout ça est là. Mais en même temps, le poids fait aussi la différence. Mmh. La robustesse va faire la différence. Alors, faisons comme on a fait au tennis, de développer justement les structures de tennis comme on les connaît à Montréal, du côté masculin et féminin. Et faisons qu'on crée des endroits où ces femmes-là vont pouvoir jouer du hockey de haut niveau, comme on le voit régulièrement aux Olympiques, le niveau qu'on voit aux Olympiques, le niveau qu'on voit dans les championnats du monde, dans la série rivalité Canada-US. La Finlande qui a rapporté, en fait, techniquement, la Finlande a gagné le championnat du monde l'année dernière. Donc, c'est d'offrir un endroit pour que l'ensemble des meilleurs éléments puissent et que vous et moi continuons à aller le voir et l'apprécier.
Écoute, évidemment, tu n'es pas du côté d'Hockey Canada, mais j'imagine que lorsque tu ne remportes pas, lorsque tu te fais battre contre les Américaines puis que la Finlande remporte le championnat du monde, veux pas, est-ce qu'on pèse sur le bouton panique? Puis là, wow, il faut trouver le moyen, il faut gagner, il faut ramener ça, ces médailles-là.
Mais c'est malheureux. Bien souvent, on attend d'être dans des situations comme ça pour changer. Il y a un dicton qui dit « Quand tu es rendu en haut and you are the top, si tu es at the top of your game, change your game. » Mais maintenant, c'est peut-être ce que Hockey Canada s'aperçoit. On a perdu quand même les 8 des 10 derniers championnats du monde et on a attendu peut-être beaucoup trop longtemps. Alors, le changement, c'est pas d'attendre quand on se retrouve du mauvais côté de la clôture, mais pour y rester du bon côté, on se doit de changer régulièrement puis de dire, ben là, on est rendu là. Qu'est-ce qu'on peut faire pour s'assurer qu'on développe justement davantage de jeunes filles, d'entraîneurs aussi? Mais on a travaillé longtemps avec à peu près les mêmes 40 filles et c'est là quand on parle de développer le bassin de joueuses et la rétention de joueuses. C'est là le devoir de l'idée.
La Ligue nationale de hockey, évidemment, doit s'impliquer dans le développement des jeunes filles, doit s'impliquer dans les différentes structures. Tu as parlé d'une structure. En fait, tu le vois chez les garçons, on appelle ça une structure intégrée pour permettre à tout le monde de se développer et d'avoir des opportunités. Je pense que la Ligue nationale doit faire ça. D'un côté, on ne sent pas beaucoup d'enthousiasme du côté de la Ligue pour embarquer là-dedans. Puis de l'autre côté, tu as Seattle qui va avoir Cammy Granato qui sera la première dépisteuse professionnelle avec la nouvelle formation de Seattle. Donc, à l'interne, tu sens qu'il y a un vent de changement, mais c'est difficile de faire bouger le gros navire, là.
Je pense que le navire, comme une organisation, comme la Ligue nationale, peut-être que ça va prendre du temps, mais une fois que l'accord de principe devrait ou va arriver, j'ai l'impression que là, ça va aller beaucoup plus vite et ça va être un changement qui va marquer le hockey féminin. Lorsqu'on va sur le site de la Ligue nationale et on regarde justement la vision, c'est hockey pour tous, hockey for everyone, je pense que 50% de la population devrait être servie par rapport à ça. C'est sûr que le marché de la Ligue nationale, c'est de développer le hockey masculin pour développer évidemment leur athlète, mais en même temps, quand on parle de développer le fan base, bien, le fan base va se retrouver et c'est un peu comme le basketball ou le soccer ou l'ensemble des autres sports. Alors, est-ce que la Ligue nationale doit y être? Peut-être pas, mais devrait y être pour l'ensemble des raisons que je viens de mentionner. Et je pense qu'il y a un marché pour ça.
Daniel Sauvageau, est-ce que la Ligue nationale, puis je poursuis là-dessus, je trouve ça intéressant, est-ce que la Ligue nationale de hockey tente, selon toi, de lancer ça dans les mains de la Fédération internationale de hockey en disant c'est vous autres qui serez supposés développer ça, le hockey féminin?
C'est pas du tout le même, au même titre que l'Association internationale de hockey va développer les championnats du monde, ensuite les Olympiques, autant du côté masculin que féminin. Alors, la mission, justement, de l'Association internationale, ensuite de Hockey Canada et Hockey Québec, c'est de vraiment regarder le niveau hockey. Mais du niveau professionnel, c'est vraiment la dernière étape. Et je pense que là, ça appartient à une ligue, ça appartient à des promoteurs. Et je pense que la Ligue nationale a tout à gagner à s'impliquer. C'est pas la mission du IIHF.
Daniel Sauvageau, qu'est-ce qui t'a poussé à être coach de hockey?
La passion pour le hockey, au même titre que n'importe quel entraîneur, que ce soit Scotty Bowman ou Claude Julien, vous dirait pourquoi j'ai les mêmes raisons. Les mêmes raisons, et à 12 ans, on m'a dit « tu peux pas jouer au hockey », et un peu plus tard, on m'a dit « tu peux pas coacher au hockey », puis ensuite, on m'a dit « ben tu peux pas travailler vraiment professionnel », et je veux pas dire que la Ligue nationale, c'est meilleur ou différent que le hockey féminin, c'est juste que j'aurais rêvé de faire du hockey professionnel, c'est-à-dire d'en faire mon emploi à tous les jours. Je suis devenu un bénévole professionnel, mais c'est vraiment la même passion qui a amené ces hommes à vouloir un jour coacher dans la Ligue nationale.
Et jamais, au grand jamais, il n'y a personne qui t'a offert de dire hey, « viens avec nous autres, on pourrait apprendre de ce que tu as connu, ce que tu as vécu. »
J'ai cogné à certaines portes parce que l'ensemble des hommes avec qui j'ai travaillé, que ce soit mes assistants coach ou mes coachs vidéo, sont tous dans la Ligue nationale. Et on me dit ben, au début, ouais, mais tu n'as pas joué la game à ce niveau-là, tu n'as pas été impliqué dans la Ligue nationale, mais aujourd'hui, ça ne peut plus fonctionner parce que lorsqu'on regarde le DG de Toronto, qui n'a jamais même joué au hockey, qui a 33 ans, puis qui est DG des Maple Leafs de Toronto, ben ça doit tomber. Alors, j'ai cogné à des portes, on m'a dit on n'est peut-être pas prêt pour ça. Puis aujourd'hui, je suis grandement ravie quand j'entends justement des histoires comme Camille Granato qui a fait ses derniers Jeux olympiques en 2006. Et quand tu regardes, en fait, en 2002, elle a été libérée pour 2006. Ça a pris tout ce temps-là pour faire sa marque. Alors, j'ose croire, en tout cas, on espère que un jour, il va y avoir justement une femme derrière le banc parce que d'être derrière le banc puis d'analyser du hockey, de regarder, par exemple, d'accompagner dans un protocole de retour à l'entraînement, ensuite de retour au jeu, de faire du vidéo, je pense que des femmes ont à leur place qu'un homme.
NBA, c'est déjà fait. NFL, c'est fait.
Beaucoup
et là,
même.
On attend du côté de la Ligue nationale de hockey.
Alors, c'est pas à ma porte qu'on doit demander ces questions-là, c'est plutôt à la porte des propriétaires et des clubs de la Ligue nationale.
Daniel Sauvageau, merci beaucoup
pour
tout le travail que tu
merci
as fait. Et on répète que vendredi prochain, le 18 octobre, ça sera l'ouverture officielle de cette saison du programme de hockey féminin des Carabins de l'Université de Montréal. Donc, tu as été... tu as travaillé depuis les premières secondes de ce programme-là. Tu y travailles encore. Félicitations. Merci beaucoup, Daniel Sauvageau.
Merci beaucoup et venez nous voir. Merci.
Merci. On s'arrête quelques instants. Retour, il sera à la barre de Bonsoir les sportifs ce soir. Yannick Lévesque est avec nous.